La vie d'Avidanta.
Une émission présentée par Aline.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente le journal hebdomadaire de la vie quotidienne. Merci à Francky à la prise de son, à Alex au mixage, ainsi qu'à toute l'équipe de Radio Centrafrique. Au sommaire cette semaine, nous allons parler du stress, de ses différentes formes et de ses conséquences délétères sur notre corps s'il devient chronique. Et puis, dans la rubrique des aliments qui nous soignent, nous aborderons la blette ou bête à carde. Ce légume à feuilles ne se mange jamais cru à cause de sa forte teneur en acide oxalique. Nous terminerons l'émission par la lecture de contes de la petite pelote de haine. Mais tout de suite, place au thème principal. Le stress est par nature une réaction physiologique naturelle. Notre organisme réagit naturellement à des phénomènes stressants. Il est donc utile de comprendre si les réactions de notre organisme sont adaptées ou non, excessives ou insuffisantes à des événements stressants. Bien sûr, il est également important d'évaluer la présence ou non d'un stress continu, facteur déclenchant de problèmes de santé. On ne peut parler de mécanisme du stress sans parler de la cascade hormonale qui va se dérouler. Car au cœur de ce phénomène, ce sont quatre hormones bien connues qui entrent en jeu. Il y a la noradrénaline, précurseur de l'adrénaline, qui sera libérée par les glandes surrénales dans la circulation sanguine et qui contribue à augmenter la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Ensuite, entre en piste la sérotonine et la dopamine. Leur équilibre permet la stabilité de l'humeur et la capacité à l'initiative. Et enfin, le cortisol, sécrété par les glandes surrénales, qui régule, lui, les fonctions cardiaques et fournit au cerveau l'énergie suffisante pour le préparer face au stress. Selon le syndrome général d'adaptation mis au point par le docteur Cellier, le postulat est que tout être humain qui rencontre une situation source de stress tend à s'y adapter au moyen de trois phases. La phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. La première phase, c'est la phase d'alarme. On la vit plusieurs fois par jour. C'est une phase d'adaptation positive au milieu extérieur et à différents stimuli. Dans cette phase, tous les sens sont en alerte et la personne en stress mobilise très rapidement ses ressources. Cela correspond à la réaction de survie immédiate. Par la voie nerveuse, l'adrénaline est libérée et prépare à l'action physique rapide. La vigilance de l'individu est accrue pour interpréter la situation de stress et réagir au plus vite. Cette phase demande beaucoup d'énergie à l'organisme pour réagir rapidement. Ce stress est positif s'il ne dure que 5 à 10 minutes et après un temps de récupération. On peut le qualifier de stress ponctuel. La deuxième phase, c'est la phase de résistance. En cas de stress prolongé, la sérotonine et la dopamine vont être sollicitées de façon importante et puis vont rapidement s'épuiser. Le cortisol, lui, s'élève pour stimuler la fabrication de glucose qui est l'énergie nécessaire à l'organisme pour se défendre. La libération de cortisol, par un phénomène en cascade, exerce un effet de rétro-contrôle et maintient un niveau de cortisol stable pour éviter que la machine ne s'emballe. En même temps, une fuite du magnésium par les urines s'enclenche. Cette hypercortisolémie, c'est-à-dire cet excès de production de cortisol dû à la situation de stress prolongé, eh bien, elle peut entraîner des perturbations de l'immunité, du métabolisme, des sucres et des graisses. En d'autres termes, elle peut favoriser le diabète et la prise de poids. Elle peut induire aussi des troubles du sommeil et de l'humeur, voire même une altération des neurones cérébraux. À ce stade, on parle de stress chronique. Et la troisième phase, c'est la phase d'épuisement, qui se déclinera en deux états. D'une part, l'épuisement psychique. Quand l'organisme est dépassé, la sérotonine et la dopamine s'effondrent. Le cortisol, lui, reste encore élevé. Et on parle de burn-in. L'organisme essaye encore de s'adapter. Les signes délétères du stress apparaissent. De la fatigue, de l'anxiété, la perte du plaisir et la diminution des défenses immunitaires qui baissent et rendent l'organisme plus vulnérable aux infections. D'autre part, l'épuisement psychique et physique. C'est l'aggravation obligatoire de l'état de burn-in si rien n'est modifié. Elle correspond à ce qu'on appelle le burn-out, appelé aussi syndrome d'épuisement professionnel, qui se caractérise par un état de fatigue intense, accompagné par un désengagement dans les activités professionnelles et personnelles de la personne qui souffre. Et c'est surtout un processus plus ou moins long. Il peut s'installer insidieusement pendant des années chez la personne en situation de stress chronique. Le système de défense psychique et physique de l'individu est complètement épuisé et déréglé. Et cela crée un défaut de sécrétion de cortisol dès le matin. La prise en charge vise bien sûr à traiter le trouble identifié, mais également à agir sur le contexte socio-professionnel à l'origine du syndrome. Alors, que faire pour éviter tous ces stress ? L'ami numéro 1 du stress, c'est le magnésium. Il est le précurseur des neurotransmetteurs. C'est d'abord et avant tout l'élément majeur à proposer à toute personne vivant une situation de stress. L'utilisation des plantes adaptogènes est intéressante, telles que la rhodiole, la schisandra ou encore le leutérocoque. Ces plantes minimisent les conséquences physiologiques des stress émotionnels et physiques et permettent de rester opérationnel pour affronter le quotidien. Si votre humeur est tout de même fragile, notamment en fin de journée, le griffonia sera une plante à tester car elle favorise la production de sérotonine. Des sollicitations longues de stress diminuent nos réserves et augmentent nos besoins. Il est important d'apporter à son organisme les nutriments nécessaires. Les vitamines du groupe B sont des incontournables car le corps en consomme en grande quantité lors de périodes stressantes. Pensez à la levure de bière, c'est un complément alimentaire très riche en vitamines du groupe B et en minéraux. Les produits de la ruche tels que le pollen sont riches en vitamine B aussi. Et la gelée royale est très riche en acétylcholine. Ils vont être efficaces pour combattre l'anxiété. Dans la série des bonnes tisanes, pensez à la tisane de mélisse qui est particulièrement efficace dans les états de stress. Elle calme l'esprit. Elle est un tonique rajeunissant pour les nerfs et le système circulatoire et améliore la digestion. Prenez une infusion de mélisse pendant 3 jours. Mettez une cuillère à soupe de feuilles séchées dans une tasse d'eau bouillante, puis laissez infuser 10 minutes. C'est prêt. En conclusion, je dirais que le stress a tendance à bloquer notre respiration, car le souffle exprime nos émotions. Souffle coupé par la surprise, par exemple. Souffle court du haut trac. Mais il peut aussi influencer notre état. Plus il est court, plus le corps s'affole et a du mal à s'oxygéner. Moins le corps s'oxygène, plus il panique et moins il respire profondément et sereinement. Et pourtant, on prend rarement le temps de conscientiser que l'on respire. Cela se fait sans qu'on y pense, naturellement. Or, cette prise de conscience est capitale pour faire du souffle un puissant allié de notre épanouissement quotidien. On parle même de respiration thérapeutique ou de respiration santé, tant apprendre à respirer a des vertus sur l'équilibre nerveux, le sommeil, l'éveil et même notre immunité et la santé de nos intestins. Ce n'est pas peu dire. Si vous avez l'impression d'avoir la respiration bloquée, que vous digérez mal, c'est peut-être aussi parce que votre diaphragme est trop contracté. Pour le détendre, je vous propose ce petit exercice de respiration, car un diaphragme souple permet une respiration plus fluide, une bonne digestion ainsi qu'un relâchement des tensions musculaires et nerveuses. Allongez-vous sur le dos, les mains posées à plat en dessous de votre poitrine, les doigts tournés vers l'intérieur. Et adoptez une respiration ventrale. Inspirez doucement par le nez, en gonflant l'abdomen sans chercher à soulever la poitrine. Puis, expirez le plus longtemps possible. En même temps que vous expirez, faites doucement glisser les mains vers l'extérieur, comme pour ouvrir vos côtes davantage. Cela permet de gagner de l'amplitude au niveau de votre respiration thoracique. À répéter 5 minutes par jour, surtout en période de stress. Pensez aussi à l'exercice de cohérence cardiaque. Et enfin, adoptez les bons réflexes. Prenez du temps chaque jour pour méditer, pour faire la sieste, pour faire les choses qui vous tiennent à cœur et prenez aussi du bon temps avec les amis. Tout cela contribuera à éloigner les états de stress. Dans la rubrique de ces aliments qui nous soignent, parlons de la blette ou bêta-carde, Beta vulgaris, variété cycla. Elle appartient à la même famille que la betterave rouge et la betterave sucrière. Elle a pour origine la blette maritime qui pousse spontanément au bord de la mer dans les régions méditerranéennes. La blette fut cultivée et consommée depuis des temps reculés. Des fouilles archéologiques semblent prouver que les Celtes l'avaient domestiquée 2000 ans avant Jésus-Christ. Les blettes sont hypocaloriques. Elles renferment seulement 3% de glucides, 2% de protides et 0,2% de lipides. Par ailleurs, leur teneur en vitamines et minéraux est assez intéressante. Cependant, il faut savoir que c'est principalement dans les feuilles que ces nutriments se situent. Un inconvénient majeur de ce légume, c'est qu'il contient beaucoup d'acide oxalique. Celui-ci tend à s'opposer à l'assimilation du calcium et du magnésium. Par chance, la cuisson élimine une partie de cette substance antinutritionnelle. De plus, c'est probablement le légume le plus riche en sodium, ce qui fait qu'il ne convient pas toujours dans le cadre de régimes sans sel. Une partie de ses fibres est insoluble. Si celle-ci aide le transit intestinal, elle dérange parfois les personnes souffrant de colite. Il faut donc être prudent. En diététique chinoise, la blette, de nature fraîche et de saveur douce, est un aliment idéal pour soutenir votre foie et votre vésicule biliaire, mais également votre rate et votre estomac. Le fait de manger le blanc et le vert vous apporte un équilibre parfait entre votre yin et votre yang. Il est à noter que c'est la blette rouge qui est considérée comme la plus efficace sur le plan médicinal. Si la blette est intéressante pour les dysenteries, elle l'est aussi en cas d'entérite aiguë. Malgré son action en cas de diarrhée, elle est également active en cas de constipation. Pour les troubles cutanés, c'est le jus de blette ou la blette écrasée que l'on applique localement sur le site de l'inflammation. Les fluroncles, les abcès, les brûlures par exemple. Certains nutritionnistes chinois conseillent la blette en cas d'anémie ferriprive, c'est-à-dire par carence de fer. Un petit conseil, n'abusez pas de ce légume si vous vous sentez sous l'emprise de stress, car il risque donc de faire chuter votre taux de magnésium, qui est un élément majeur de lutte contre ce fameux stress. Aujourd'hui, pour le partage musical, j'aimerais qu'on écoute ensemble Estelle Meyer, une chanteuse incandescente. Une chanteuse, mais aussi une comédienne, une poétesse. Cette jeune femme de 36 ans mène tous ses projets avec l'énergie d'un buffle qui fleurit tout sur son passage. Mais toujours dans le respect infini du vivant, fragile, autour de nous et de la magnificence de la création. Écoutons pour toutes mes sœurs.
Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent jouir, je jouis. Tout sorti d'un ventre, d'un sexe, de femme. Tout sorti d'un utérus, de dame. Nous sommes vos mères, vos sœurs, vos femmes, yin et yang complément d'âme. Ras-le-bol d'avorter que des filles, ras-le-bol de cacher ses chevilles. Nous naissons toutes nues et belles, ras-le-bol de croquer la pomme. On sort pas d'une putain de côte de l'homme. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie. Pour toutes mes reines qui peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent jouir, je jouis. Nous sommes femmes, les femmes, nous sommes soupirs. Nous sommes l'avenir de fleurs et d'herbes coupées, de fruits violents. Nous sommes robes blanches, sensuelles et anges, des telluriques, des porteuses d'eau, des magiciennes, des allumées, des guérisseuses, des accoucheuses, des lunes rouges de la fertilité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes femmes, les femmes, nous sommes soupirs. Nous sommes l'avenir de fleurs et d'herbes coupées de fruits violents. Nous sommes robes blanches, sensuelles et anges, des telluriques, des porteuses d'eau, des magiciennes, des allumées, des guérisseuses, des accoucheuses, des lunes rouges de la fertilité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent jouir, je jouis.
Cette artiste puissante, entre la chamane et la poétesse rock, nous offre son univers généreux, mystique et décalé. Estelle Meyer nous interpelle de son timbre unique, tout de velours griffé et de feutre brûlant. Elle chante à s'en ouvrir le ventre, un monde réenchanté par la poésie. Le conte que je vais vous raconter aujourd'hui s'appelle « Le conte de la petite pelote de haine ». Il fait partie du recueil de contes à guérir, contes à grandir de Jacques Salomé. Il était une fois un ancien petit garçon qui s'était attaché, il y a de cela très longtemps, à une petite pelote de haine. Cette petite pelote de haine lui tenait froid au ventre et au cœur. Il en avait besoin des fois qu'il aurait flanché ou renoncé. Oui, il se servait de cette petite pelote de haine pour ne pas oublier toutes les violences qu'il avait reçues de son père et aussi pour se rappeler tous les reproches qu'il avait envers sa mère, qui avait laissé faire cette violence sur lui sans intervenir. Ah oui, il voulait se souvenir, ne pas oublier. Aussi, depuis bientôt 45 ans, soigneusement, il entretenait ses ressentiments, ses rancœurs, ainsi qu'une tristesse faite de morosité et d'humour décapant qui, souvent, blessait même ceux auxquels cet humour n'était pas destiné. Sa petite pelote de haine était ainsi très bien entretenue, toujours vigilante, toujours présente. Il avait ainsi 1000 exemples de souffrance, d'incompréhension, de violence, d'humiliation ou d'injustice qu'il avait reçue ou subie, dont aucune ne devait être oubliée, jamais de la vie. Un jour, cet homme, car c'était devenu un homme, décida de ne plus garder sa petite pelote de haine. Au début, ce fut terrible. Il avait l'impression d'être nu, démuni. Il fut complètement désorienté. Il dut céder en faisant un grand sac avec deux draps de lit cousus ensemble pour déposer dedans toutes les aigreurs, tous les souvenirs négatifs qu'il avait en lui. Rancœur et ressentiment emplirent bientôt le sac. Certains traits coriaces revenaient en lui, même après avoir été déposés dans le sac. Il ne se découragea pas, continua à les déposer, à se débarrasser de toute cette violence qu'il entretenait en lui depuis tant d'années, en ressassant sa souffrance d'enfant maltraité, en accusant, en se plaignant. Certains jours, il aurait voulu dénoncer au monde entier quel parent épouvantable il avait eu. Pour que tout le monde sache son malheur et son mérite d'avoir supporté tant d'injustices. Quand le sac fut plein, il ne put inviter ses parents pour leur rendre tout cela, car le temps avait passé et ils étaient morts tous les deux. Aussi, décida-t-il d'aller déposer ce grand sac de ruminations noires et de ressentiments amers sur leur tombe. À partir de ce jour, ce fut comme un miracle. Le regard, la bouche, le visage, mais aussi les gestes de cet homme ne furent plus les mêmes. Il retrouva une seconde jeunesse, et le plus étonnant fut que ses propres enfants commencèrent à s'approcher de lui avec confiance, avec abandon. Car ils avaient très peur de cet homme, lui qui pourtant ne les avait jamais frappés. Ils cessèrent de se disputer entre eux. Ils osèrent aussi les gestes de la tendresse et de l'ouverture, et purent les vivre du vivant de leur père. Ainsi se termine le conte de l'homme qui avait entretenu durant tant d'années une petite pelote de haine à même sa peau. Et voilà, notre émission s'achève pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Retrouvons-nous la semaine prochaine, même lieu, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien, pensez à bien respirer, à bien manger, à bien rigoler, à bien bouger, à bien vous reposer, à bien aimer. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de Radio Sainte-Afrique, dans l'onglet « Les hebdos », la Vira Vidanta. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, l'émission sera rediffusée le samedi à 8h15. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter. À d'ici.